Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Si nous sommes miséricordieux, nous ne craignons pas la mort. Le pape, lors de l'audience générale ce mercredi matin, a livré une catéchèse sur la mort, rappelant qu'il y avait toujours un instinct puissant pour nous dire que notre vie ne finit pas avec la mort. Retour sur l'assemblée plénière du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux avec Mgr Bousquet, qui revient sur le thème de la rencontre, le rôle des religions dans la société civile. Nous donnerons une large place à la Syrie, une fois encore avec une initiative du Conseil pontifical Coronum en faveur des enfants syriens réfugiés au Liban, l'action de l'Ordre de Malte au Liban, notamment en faveur de ces réfugiés, et sur les enjeux que représente leur accueil avec le père jésuite Samir Khalil. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Le froid qui régnait place Saint-Pierre ce mercredi matin n'a pas empêché une foule de pèlerins encore nombreuses de venir écouter la catéchèse du pape François. Emmitouflé dans un manteau blanc avec une écharpe blanche autour du cou, il a félicité le public pour son courage à affronter des températures aussi basses. Toujours dans le cadre de sa catéchèse sur le credo, le pape a abordé un thème particulièrement délicat, celui de la douleur des innocents, de la mort des enfants, centrant son propos sur la vision religieuse et athée de la mort. Si on la pense comme la fin de tout, a-t-il souligné, la mort fait peur, terrorise, se transforme en une menace qui brise toute relation et interrompt tout cheminement. Cela arrive lorsque nous considérons notre vie comme un temps renfermé entre deux pôles, la naissance et la mort, quand nous ne croyons pas en un horizon, quand on vit comme si Dieu n'existait pas, a-t-il tout d'abord expliqué. La suite avec Olivier Bonnel.
La pensée athée interprète l'existence comme un cheminement vers le néant. Si nous nous laissons envahir par cette vision erronée de la mort, nous n'avons d'autre choix que celui de l'occulter, de la nier, de la banaliser pour qu'elle ne nous fasse pas peur, a expliqué le pape. Mais quand nous avons perdu un être cher, des parents, un ami, un enfant, nous nous apercevons qu'un instinct puissant nous dit que notre vie ne finit pas avec la mort, a-t-il poursuivi. Cette soif de vie, a déclaré le pape, a trouvé une réponse dans la résurrection du Christ, qui ne donne pas seulement une certitude de la résurrection, mais illumine aussi le mystère de la mort. Si nous vivons avec Jésus, unis à lui, nous serons capables d'affronter le passage de la mort. Car l'un des buts de la vie est aussi de préparer l'autre vie, celle avec le Père Céleste. Et pour cela, il faut être proche de Jésus. C'est pourquoi il faut aussi pratiquer la charité, a souligné le pape, car le Christ lui-même s'est identifié aux pauvres et aux personnes souffrantes dans la parabole du jugement dernier. D'où cette recommandation de François, « Si nous ouvrons la porte de notre cœur à nos frères plus petits, alors notre cœur deviendra une porte qui ouvrira sur le ciel, où demeurer pour toujours avec Dieu notre Père, avec Jésus, avec la Vierge et tous les saints. » Et le pape d'inviter son auditoire à répéter avec lui par deux fois la phrase « Qui fait preuve de miséricorde, ne craint pas la mort. »
Olivier Bonnel. Et avant cette audience, le pape a tenu à saluer seul Paul VI une cinquantaine de petites filles malades d'une maladie rare, le syndrome de Rett. Cette maladie concerne essentiellement les jeunes filles et s'attaque à leur développement neurologique. Le pape a eu un geste pour chacune d'elles. On reste au Vatican pour parler du dialogue interreligieux. Le Conseil pontifical en charge de ce dossier tient cette semaine son assemblée plénière. Le thème principal de cette rencontre est le rôle des religions dans la société civile. Nous en avons parlé hier avec le cardinal Torrent, le président du Conseil. Nous abordons une nouvelle fois ce thème aujourd'hui avec un des intervenants de cette réunion, Mgr Bousquet, le recteur de Saint-Louis des Français à Rome. Il est intervenu en tant qu'expert mardi matin pour présenter un rapport justement sur le rôle de la religion dans la société civile. Il nous détaille les grandes lignes de son intervention.
D'abord, il faut essayer de définir un peu, pour faire très attention, parce que nous pensons spontanément l'appartenance à la religion comme des chrétiens, c'est-à-dire l'appartenance à une église. qui est exclusive. Si vous êtes dans l'église, vous n'êtes pas musulman ou juif. Alors qu'en Asie, on peut appartenir à plusieurs traditions spirituelles. Ça se pose pas du tout de la même manière. Et donc aussi, le rôle inspirateur de la religion dans les sociétés est très très variable en fonction des contextes et des sortes de religions. En gros, il y a deux fonctions de la religion. D'une part, une fonction de sagesse, qui est une fonction d'intégration dans la société. Et puis vous avez une fonction qui est une fonction plus prophétique, qui est celle de protestation contre les injustices ou ce qui ne va pas dans une société. Il faut faire très attention aussi à une sorte de dissolution de la religion dans la société avec deux problèmes un peu insistants. Le premier, c'est d'avoir une fausse conception de la neutralité. Ça nous guette pas mal, nous, les petits Français. La neutralité, ça serait mettre entre parenthèses ses convictions religieuses, mais aussi éthiques d'ailleurs. Du coup, un problème pour l'éducation, si vous mettez entre parenthèses l'éthique et que vous ne donnez que des enseignements de savoir et de savoir-faire, vous ne faites pas votre travail d'éducateur. Bon. Alors que la vraie religion, c'est pas de mettre entre parenthèses ses convictions religieuses ou éthiques, c'est d'y tenir pour soi-même, mais d'accepter le pluriel et d'accepter le débat. Et donc la vraie garantie contre le fanatisme, le prosélytisme, etc., c'est justement le débat, la parole ouverte, mais qui fait pas comme si ça n'était pas important dans l'espace public.
Au-delà de la neutralité, quel est l'autre danger qui guette ?
C'est l'indifférenciation de l'humanitaire et du religieux. Souvent, on comprend très mal le deuxième niveau du dialogue classiquement, qui est le dialogue de l'humanitaire, le dialogue de l'action. On dit, enfin, heureusement, mettons entre parenthèses la religion qui est violente et qui divise, alors on va pouvoir faire de l'humanitaire, s'occuper de l'humain. Et c'est complètement faux comme interprétation. C'est parce que nous appuyons sur nos ressources spirituelles, que précisément nous pouvons dépasser des intérêts sectoriels et ensemble travailler, alors qu'on a des aspirations différentes, à l'humain et surtout pour espérer pour tous. C'est ça qui est le plus important.
Monseigneur Bousquet, au micro de Jean-Baptiste Cocagne. Parlons maintenant de la Syrie, un pays qui est cher au cœur du pape François, qui est beaucoup préoccupé par la poursuite de la guerre qui déchire ce pays depuis près de 3 ans. Ce mercredi, une veillée de prière pour la paix en Syrie à Rome renouvelle la veillée organisée par le pape place Saint-Pierre. L'occasion aussi de prier pour le père d'Al-Olio enlevé à Raqqa fin juillet dernier et pour toutes les personnes enlevées. Le Vatican reste ainsi mobilisé dans le soutien de la population syrienne. Le conseil pontifical Coronum, aux côtés de l'hôpital du Bambino Gesù de Rome et de la Caritas Liban, lance une mission sanitaire en faveur des enfants syriens réfugiés au Liban. L'initiative a été présentée ce mercredi en salle de presse du Saint-Siège. Elle débutera début décembre et s'étendra sur 3 mois. Cette opération dans la vallée de la Bekaa, à la frontière avec la Syrie, doit permettre de venir en aide à des centaines d'enfants à travers des soins pédiatriques, la distribution gratuite de médicaments et des vaccinations. Hélène Destombes.
Aider la population syrienne, au-delà des appartenances ethniques et religieuses, c'est pour le pape François le moyen le plus direct d'offrir une contribution à la pacification et à l'édification d'une société ouverte. Cette mission en faveur des enfants syriens est donc une réponse concrète à l'appel lancé par le Saint-Père en juin dernier, au terme d'une réunion du conseil pontifical Coronum. C'est ce que nous explique le cardinal Robert Sarah, président du dicaster, qui sera au Liban du 4 au 8 décembre pour superviser cette opération.
On a eu toujours une grande préoccupation pour venir en aide, surtout aux enfants. Et donc c'était vraiment sa préoccupation que nous avons voulu actualiser. Et je me réjouis en tout cas que ce projet va voir le jour. Et nous allons ensemble avec l'hôpital Bambino Gesù au Liban, à la Bekaa, pour pouvoir remettre sur pied ce projet. Principalement, je rencontrerai les évêques qu'ils pourront sortir de la Syrie, mais aussi les évêques du Liban, pour voir un peu comment ensemble nous pouvons être plus actifs, plus efficaces au niveau de l'Église, pour venir en aide non seulement aux enfants, mais aussi aux milliers de réfugiés, aux familles. Je pense que ce sera une occasion pour soulager un peu la souffrance et des familles, mais surtout des enfants.
Sur les 2 millions de réfugiés syriens, 800 000 se trouvent au Liban. Plus de la moitié sont des enfants ou des adolescents. Pour mieux organiser l'aide qui leur est destinée, un bureau d'information et de communication a été ouvert à Beyrouth. Il a permis de chiffrer le soutien des différents organes caritatifs catholiques. On sait par exemple que l'Église, dans son ensemble, a jusqu'à présent consacré 78 millions de dollars à la population syrienne. Une aide distribuée dans 20 villes syriennes, mais aussi en Jordanie, en Turquie, en Égypte, en Irak et bien sûr au Liban, où les besoins, notamment médicaux, sont énormes, comme en témoigne le père Simon Fadoul, le président de Caritas Liban.
Les besoins sont de tout genre, gigantesques, et les ressources diminuent chaque jour. Nous, en tant que Caritas Liban, jusqu'à maintenant, nous avons des cliniques mobiles, 4 cliniques mobiles consacrées au service des réfugiés syriens. Nous avons aussi, nous procurons un service psychosocial qui est très, très, très important. Alors nous avons des psychologues et des assistantes sociales qui visitent les réfugiés et on sent chaque jour que ce besoin grandit vraiment avec le temps parce que cet état dans lequel ils vivent devient de plus en plus insupportable.
Depuis le mois d'avril 2011, Caritas Liban est venu en aide à quelque 32 000 familles, à 94% musulmanes. À travers cette nouvelle initiative destinée aux enfants syriens, le Vatican et ses partenaires entendent non seulement agir à travers une aide ciblée, mais aussi sensibiliser la communauté internationale aux drames vécus par les populations syriennes.
Un sujet réalisé par Hélène Destombes. L'accueil des réfugiés syriens est devenu une charge à la limite du supportable pour le Liban qui peine à y faire face. Le père Samir Khalil, jésuite libanais, est bien conscient des difficultés que rencontre son pays. Il est aussi bien conscient des enjeux de cette guerre civile syrienne pour la population syrienne dans son ensemble, bien sûr, mais aussi pour l'ensemble des chrétiens du Proche-Orient.
Les chrétiens, de par le fait qu'ils sont plus ouverts à l'Occident, ils ont le sentiment qu'on pourra s'y adapter, sont proportionnellement, pas en nombre absolu, plus nombreux à émigrer. Mais peu importe qui c'est des gens qui sont dans le besoin. Et le besoin, ils ne l'ont pas créé. C'est parce qu'il y a eu des guerres.
Il y a aussi évidemment le drame de ceux qui s'en vont et on sait combien le Saint-Siège est attentif et il est préoccupé par justement tous ces départs de chrétiens. Pourquoi est-ce qu'il y a cette préoccupation de voir des chrétiens s'en aller? Parce que d'autres vont suivre et qu'il n'y aura plus personne?
Parce que ce mouvement ne fait qu'augmenter. La proportion des chrétiens baisse d'année en année. Le fait qu'il n'y ait par exemple que 1% de chrétiens en Irak veut dire ceux qui restent sont très fragilisés. C'est une communauté qui disparaît. C'est une culture qui va disparaître. Parfois leur langue. En tout cas, c'est un appauvrissement pour les musulmans. L'Irak sans les chrétiens, il s'en ressentira demain. D'ailleurs, il s'en ressent aujourd'hui. Il y a chaque semaine une centaine ou plusieurs centaines de victimes musulmans, d'autres musulmans. Il n'y a personne pour les protéger. Je disais au Liban, le jour où, au lieu de 35%, on arrivera à 25%, il n'est pas sûr qu'on dira on maintient la parité dans les fêtes nationales, dans l'impact politique, etc., culturel. Or, c'est une perte pour tout le pays. Ils devraient être, et ils sont en partie, le sel de la terre. S'ils s'en vont, ça crée un phénomène multiplicateur. Moins il reste de chrétiens, plus les chrétiens tendront à émigrer. Il y a aussi un fait. Si ce phénomène continue, dans quelques dizaines d'années, s'il n'y a pratiquement plus de chrétiens, prenons le cas de la Palestine, Jérusalem et tout ça, que signifie encore le pèlerinage? Si c'est pour voir des pierres, le pèlerinage est aussi pour rencontrer les chrétiens qui vivent cette tradition de Jésus. Or, c'est en train de disparaître.
On voit bien ce qui se passe entre les frères musulmans et les coptes en Égypte, par exemple. Est-ce que les musulmans chiites ou sunnites se rendent bien compte que pour eux aussi, ça peut être une chance d'avoir des chrétiens?
Bien sûr. Et comment? Les chiites, plus fortement. Parce qu'eux aussi sont une minorité dans le monde musulman. Et ils nous disent toujours, vous et nous, nous sommes très proches parce que nous avons dû souffrir, nous, comme musulmans minoritaires, et vous, vous souffrez parce que aussi ils sont plus spirituels. Faut le dire.
Le père Samir Khalil, jésuite libanais, au micro de Marie Duhamel. Nous avons vu que la Caritas, notamment, venait en aide aux réfugiés syriens au Liban. Eh bien, il y a aussi l'Ordre de Malte qui a créé et gère au Liban une dizaine de centres médico-sociaux, dont 3 unités médicales mobiles. plusieurs centres pour le troisième âge et un centre spécialisé pour les enfants atteints d'une infirmité motrice cérébrale. Ces centres sont installés dans des zones pauvres ou dans des zones qui menaçaient d'être abandonnées par les chrétiens. Parmi ces centres, le centre de Sidi Kine est le fruit d'une collaboration entre l'ordre et la fondation chiite Sadar. Outre les soins que les chevaliers apportent aux Libanais, il vient également en aide aux Syriens ayant fui la guerre. Marwan Senaoui est le président de l'association libanaise des chevaliers de l'ordre. Il revient sur le travail de son organisation dans ce contexte difficile.
Nous aidons toute personne qui souffre, qui a besoin d'assistance, nous sommes à ses côtés. Nous aidons, comme nous le disons dans l'ordre, nos seigneurs, parce que nous ne pensons pas que nous faisons la charité. Nous pensons que nous partageons de l'amour. Et souvent, ceux qui sont en souffrance ont bien plus d'amour à donner que nous en avons, nous-mêmes, à leur donner. Nous nous occupons, comme nous disons, de nos seigneurs, les pauvres et les malades, mais aussi de ceux que l'on dit handicapés, de ceux qui sont des personnes de troisième âge, de ceux qui sont abandonnés. Nous ne faisons aucune distinction, puisque notre devise est « Je ne te demande ni ta race, ni ta couleur, ni ta religion, mais dis-moi, quelle est ta souffrance ?» Et donc, nous nous occupons sur l'ensemble du territoire libanais de toutes les communautés, toutes confessions confondues, nous n'avons pas de différence.
Vous avez une bonne dizaine, 12 centres médicaux. Comment est-ce que vous avez choisi d'implanter ces centres? Est-ce que c'était à la demande de personne ou c'était vous qui avez choisi dans des zones particulières du Liban?
Toute l'œuvre de l'ordre au Liban, tristement et bénéfiquement, s'est construite pendant la période de guerre. Et donc, nous avons toujours implanté nos centres au fil de la souffrance humaine, au fil de ses besoins, qui se situaient en général dans des zones qui étaient pauvres, sinistrées, abandonnées, sans secours, mais aussi dans des zones où ce qui fait le message du Liban, chrétien musulman, était en voie de disparaître, puisque les chrétiens minoritaires dans des zones où ils se sentaient en danger étaient sur le point de quitter. Et on leur a dit non, il ne faut pas partir.
Un exemple ?
Barka, dans ce Hermel, au cœur de la Beka, où à la suite d'un assassinat sauvage d'un père jésuite hollandais, toute une communauté prise de crainte était sur le point du départ. L'ordre, immédiatement, en 1985, s'est construit son centre. Aujourd'hui, c'est une communauté totalement coexistentielle, construite autour du vrai ciment qui est l'amour. L'ordre, c'est la dignité de l'homme dans le respect de ses différences.
Vous insistez beaucoup sur la coexistence. Vous travaillez avec une fondation chiite. En quoi consiste ce travail ensemble? Et est-ce que vous travaillez uniquement avec cette fondation chiite?
Vivre ensemble, ce n'est pas dire que l'on peut vivre ensemble. Et ce n'est pas vivre côte à côte en parallèle. Vivre ensemble, c'est au travers d'actions communes, savoir que l'on peut s'aimer. Et l'ordre construit avec chrétiens et non-chrétiens cette relation qui crée un lien qui lui-même permet de croire qu'il y a une espérance pour demain.
Mais alors concrètement, comment ça s'exprime ce dialogue de vie à la fois avec les sunnites et les chiites?
Écoutez, il s'exprime de manière tout à fait naturelle. Dans les centres, il y a une action conjointe, non seulement au niveau des opérations, mais aussi au niveau de la population qui vient se faire soigner, puisque 50% de la population est chrétienne et que les autres 50% sont des non-chrétiens.
Marwan Senaoui, le président de l'Association libanaise des chevaliers de l'Ordre de Malte. Il était au micro de Marie Duhamel. De se quitter ce mercredi, le pape a accepté la démission de l'archevêque d'Antsiranana à Madagascar de Mgr Michel Mello, conformément au canon 401, paragraphe 1 du Code de droit canon. Il a nommé à sa place Mgr Benjamin Marc Baltasson Ramaronson, jusqu'alors évêque de Farafanga. Et puis, un salut tout particulier à nos confrères polonais de Radio Vatican qui célèbrent ce mercredi les 75 ans de la création de la rédaction polonaise. À cette occasion, Mgr Zimowski, le président du Conseil pontifical pour les opérateurs de santé, a célébré une messe en la chapelle de la radio. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas notre site internet www.radiovaticana.va ainsi que notre page Facebook Radio Vatican en français. Rendez-vous demain, même lieu, même heure.